I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et ce mois-ci, l'invité en question est avocate et elle est bien plus cool que la plus cool de tes copines, c'est Clara Benjamin. Salut Clara.
Merci pour l'invitation.
Eh bien de rien, c'est un plaisir puisque dans cet épisode 5, on aborde une décennie révérée par beaucoup, culte dirait-on. Bref, aujourd'hui, on discute de 1985. Take On Me du groupe Ha-Ha. Vous vous doutez bien que Take On Me a été dur à choisir, puisqu'en 85, il y avait aussi Careless Whisper de Wham, de George Michael. 85, c'est l'année, le 15 mars, du tout premier nom de domaine d'Internet, finissant par .com, qui s'appelait donc Symbolics.com, et qui est donc créé, pour information, il y a 342 millions de noms de domaine aujourd'hui.
Merci de nous écrire en nous disant si ça existe toujours.
Exactement, Symbolics.com, je vous laisse vérifier. Le 10 juillet 85, c'est l'affaire du Rainbow Warrior, qui est le coulage du navire amiral de Greenpeace par les services secrets français. Le 29 septembre, c'est la diffusion du premier épisode de MacGyver, avec Richard Dean Anderson, qui est une série qui durera 7 saisons et qui fera 139 épisodes. Bref, 85, c'est tout ça, mais bien plus encore, c'est aussi du cinéma, et un genre tout particulier, celui de notre premier thème, un genre qui fleurit dans les années 80, synonyme de lycée, d'acné, de première fois, de parents relous. Bref, on est parti pour ce premier thème. Johnny B. Goode de Chuck Berry, entendu, bien sûr, vous l'aurez reconnu dans la scène culte de Retour à la Futur de Robert Zemeckis.
Qui est sorti en 85 aussi.
Qui est sorti en 85. Retour à la Futur, donc film culte, on a envie de dire que c'est un film de science-fiction tout de suite de base, mais on oublie que c'est avant tout Retour à la Futur, un film, un teen movie, puisque ça va suivre les aventures de Marty McFly.
J'ai cru que t'allais dire genre un documentaire historique, ça m'aurait plus fait
Non, Retour à la Futur, c'est un teen movie, puisqu'en 85, le teen movie fleurit, puisqu'on peut compter donc en plus de Retour à la Futur, on va avoir Teen Wolf, encore avec Michael G. Fox. Voilà. On peut avoir Une Créature de rêve, Weird Science, Vampire Forever, St. Elmo's Fire, bref, plein de films qui, donc, ou pour thème principal, l'adolescence. Pourquoi est-ce qu'on, si cette période est si horrible à traverser, pourquoi est-ce qu'on aime autant les teen movies, Clara?
Parce qu'on vit par procuration, d'accord.
On peut regarder des gens relouper leur vie et puis se ridiculiser et puis avoir des moments fabuleux.
Ou pécho.
Voilà, ou pécho sans le faire soi-même.
C'est ça, ce qui n'arrive pas hein, quand tu as 14 ans, en fait, vraiment. Ou alors, je sais pas pour qui, mais en tout cas pas pour moi. Non, qu'est-ce qu'on aime dans les teen movies? Ce qu'on aime dans les teen movies, je crois que c'est aussi parce que finalement, c'est un peu l'âge où notre cinéphilie commence un peu à s'affirmer. Et donc, du coup, on commence à bouffer des films dans une quantité plus importante. Et il y a vraiment ce truc de voilà, t'as 15 ans, tu commences à développer ta cinéphilie, tu te mets à piocher un peu partout, tu vois, du film de gangster hongkongais au truc de la nouvelle vague, etc. Et puis, au milieu, t'as le truc un peu plus pop, qui est le teen movie qui est plus agréable, plus sympa, qui en même temps te parle directement et qui
identification fou.
Exactement, à ce que tu vis ou en tout cas ce qu'on te dit que tu devrais vivre, genre pécho.
tu dois pécho, tu dois pécho.
Qui n'arrive toujours pas puisque tu as 14 ans. Mais ouais, en tout cas pour moi, je pense que la giga passion du teen movie, ça vient aussi du fait que c'est le moment où ma cinéphilie a commencé à prendre de plus en plus de place. Écoute-moi, je séchais les cours pour aller au ciné, tu vois, on était un peu
sur ça. C'était pas la meilleure vie, finalement.
C'était pas mal.
Et donc, ouais, effectivement, le teen movie en 85, donc en plus de cette année qui était assez folle, hein, donc on l'a cité avec Retour à la Future, etc., etc., il y avait également les Goonies, qui n'est pas véritablement un film de teen movie, mais il y a Josh Brolin qui est là, qui est un ado, qui fait des trucs d'ado, et puis ils sont peut-être un peu jeunes, mais on va dire que ça commence à arriver doucement. L'année juste avant, en 84, on avait le film 16 bougies pour Sam, Rose Bonbon qui va arriver en 86, Ferris Bueller en 86.
Ferris Bueller en 86, ouais, c'est ce que
voilà, j'ai dit. Donc Risky Business qui est arrivé 3 ans avant. Donc en gros, au milieu de ces années 80 et dans ces années 80 en général, ce genre fleurit et voit, on va dire, arriver effectivement plein de variations du genre. Là, on a vu avec Retour à la Future, c'est une variation où on va prendre le teen movie, on va le coller avec une histoire de voyage dans le temps. Donc, parce qu'en fait, ce qui est assez amusant, c'est que Retour à la Future traite une question qui nous interroge tous.
Les baskets,
mais surtout, est-ce qu'on pourrait être pote avec nos parents ?
C'est vrai.
C'est ça la question.
C'est vrai.
C'est ça. Ça prend une problématique de science-fiction juste pour nous dire, regardez, c'est drôle, si on te met à l'époque de tes parents, est-ce que tu pourrais être pote avec tes parents et est-ce que tu pourrais pécho ta mère ? La question est posée.
Et après, c'est moi qui suis polémique.
Mais non, mais souviens-toi de cette scène où sa mère réveille son propre fils et il est en slip et elle l'a déshabillé et elle boit de l'alcool et elle veut le pécho dans la voiture.
Stop,
et évidemment. Bref,
je regrette d'être venu, je m'en vais.
On a cité tous ces films-là, Ferris Bueller, et on va encore en voir un très important juste après. Moi, j'ai envie de te poser une question,
oui.
Clara. Pourquoi les années 80, pourquoi c'est un peu l'âge d'or ? Pourquoi tous ces films qu'on a cités, c'était pas les meilleurs films de teen movie ever ?
Non, alors, je vais essayer de parler d'un peu de
à ton avis.
D'instinct, tu vois,
ouais.
Plutôt que de parler du contexte socio-économique dont tu parles juste après, de façon bien plus intelligente et intelligible. Je pense aussi qu'on est sur une période où on commence à considérer que les adolescents sont des êtres humains qui existent.
Ce sont des êtres humains qui existent, pour
exactement.
Le vrai ?
Exactement. Et notamment de façon très capitalistique, parce qu'il y a du pouvoir d'achat et des choses comme ça. Et où donc, du coup, on commence à se dire qu'on va parler à ces gens-là. Et je suppose aussi qu'on est dans une période où les gens qui sont en charge de faire des films, qui ont 35-40 ans, en fait, et ben du coup, eux, ils ont vécu le cinéma des années 50-60 qui leur parlait pas du tout. Et donc, du coup, ils commencent à vouloir faire des films qui parlent à eux de quand ils ont démarré leur cinéphilie, tu vois. Donc, on est sur une boucle. Tu vois, c'est comme le fait qu'il y a de plus en plus de films qui par exemple, se font des bons médiums qui réfléchissent aux jeux vidéo aujourd'hui. C'est ce dont Karim Debbache parlait dans son épisode final de Crost.
Ouais.
C'est probablement dû au fait que ben, les mecs qui ont grandi avec les jeux vidéo et qui avaient genre 15 ans dans les années 80, c'est les mecs qui sont en charge de décider si on fait des films maintenant.
Donc ça change pour le bien, quoi.
Alors, je sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'on peut se dire, c'est une théorie inventée on the spot, que s'il y a plein de films pour ados dans les années 85, c'est parce que les execs de studio, c'est des gens qui, dans les années 50, voyaient pas de films qui parlaient aux ados.
Et du coup, ils ont fait des films pour leur eux-mêmes de... quand ils avaient 15 ans, donc un peu un espèce de retour à la future cinématographique, c'est
on
ça.
On peut pas pécho sa mère cette fois-ci.
Ah non, voilà. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que quand j'ai cité la liste de films là, j'ai dit donc notamment Pretty in Pink, et je t'ai vu extatique, super joyeuse au fait de citer ça, mais du coup c'est intéressant parce que nous on n'est pas du tout nés, on n'a pas été ados dans les années 80. Et pourtant, c'est des films sur lesquels on revient. Alors, tu vois, effectivement, Une créature de rêve, bon, je l'ai découvert là, et c'est pas top.
Non.
C'est pas très très bien.
Mais
et c'est extrêmement
Code
sexiste. Ouais,
c'est devenu Code Lisa. La série
Code
Lisa,
Code Lisa,
c'est adapté de What's
et oui. Donc si vous étiez sur quoi, KD2A à l'époque, non.
Si vous êtes vieux.
Si vous êtes vieux, vous regardez France Télévisions le matin dans votre enfance. Code Lisa est inspiré du film Une créature de rêve de John Hughes, sorti en 85.
Weird Science.
Qui est un film extrêmement bizarre. Hein. Je vous conseille de le revoir juste pour vous rendre compte à quel point il est daté et un peu malaisant. Mais du coup, pourquoi nous, qui n'avons pas du tout vécu dans cette époque-là, ces films-là, regarde, Retour à la Future, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Et Pretty in Pink, et le film dont on va parler après, spoiler, c'est Breakfast Club, il nous parle encore et il nous touche encore. C'est vrai qu'à la en plus, les execs ont dit on va faire des films là-dessus. Et en plus, ils ont pu, je sais pas, je pose la question, mais peut-être toucher un point, parler des ados, mais parler bien des ados. Pourquoi toi, par exemple, t'aimes bien Pretty in Pink, par exemple ?
Je trouve qu'il y a une simplicité dans Pretty in Pink et dans le cinéma de John Hughes, entre guillemets, qui est que la situation est exposée d'une façon assez douce, assez simple, pour en dessous te montrer des choses plus compliquées. C'est ce qu'on va voir dans Breakfast Club après, où tu vois où c'est juste 5 gamins qui sont en colle, ouais, et où finalement ils se mettent à parler du sens de la vie, du poids des attentes de la société sur leurs épaules. Spoiler si vous l'avez jamais vu.
Des trucs super profonds, quoi.
Ouais, y a des trucs hyper vénères sur un gamin qui dit qu'il a voulu se buter parce qu'il a pas réussi à construire une lampe, tu vois. Enfin, ouais, bon, on y revient après, mais... Moi, en tout cas, ce qui me plaît dans toute cette série de films, c'est qu'il y ait une amorce douce, tu vois, une situation assez douce, qui ensuite te prend par la main, de façon avec une certaine tendresse, et t'emmène vers des choses plus dures et plus graves, et plus profondes et plus denses, mais sans jamais te dire « Hé, c'est très important, ok ?» Mais ouais, j'aime bien le fait que ça parle de choses très sérieuses sans avoir l'air d'y toucher.
Je trouve ça très joli de la façon dont effectivement t'en parles, et je trouve ça très juste, effectivement. Il y a cette espèce de douceur, on en parlera peut-être à la fin du thème, mais peut-être d'optimisme aussi.
Et maintenant, on pleure tous.
Pour remettre un peu de contexte par rapport à l'année 85 et par rapport à ce genre du teen movie, pour vous donner une idée, on l'a un peu évoqué au début. En gros, le teen movie, là, pour nous, c'est une évidence. Il y a un teen movie qui sort par semaine au cinéma. C'est un peu con, c'est un peu débile, mais on aime bien les regarder.
Ça dépend lesquels. Parler de trucs trop bien.
Il y en a qui sont très très bien et qui restent, c'est très très bien. Mais c'était pas tout le temps que ça ne fut pas tout le temps le cas, effectivement, au cinéma. Le teen movie n'a pas tout le temps été là, dans le paysage ciné, on va dire. Marquer sa naissance, la teensploitation, à partir des années 50, en gros. Donc si ça vous dit quelque chose, La fureur de vivre de Nicolas Ray, donc avec James Dean,
James
évidemment,
Dean,
sorti en 55.
La fureur de vivre
est une sorte de teen movie, parce que ça montre des bikers, ça montre déjà effectivement James Dean qui n'en peut plus de ses parents et qui a du mal à gérer son statut de bad
James
boy.
Rusty James peut déjà être une forme de teen movie aussi.
Donc ce genre-là, on va dire, né dans les années 50, puis se développe, et puis on a en 73 American Graffiti de George Lucas, qui va poser, on va dire, des jalons importants, parce que c'est 9 matrices à plein de plaies d'égards, puis qui va poser des rôles archétypaux qu'on va notamment retrouver dans Breakfast Club, c'est-à-dire le côté du bad boy, le côté du nerd, le côté du sportif, le côté du geek.
Je pensais vraiment que c'était Breakfast Club qui avait créé ça.
Et non, c'est American Graphic qui a posé ces jalons.
Je pensais vraiment que
cette
bande de 5, tu vois, qui a été repris dans 1000 trucs après, on va y revenir.
C'est archétype.
Je pensais que c'était vraiment Breakfast Club, tu vois, par exemple, quand ça revient dans Cabin in the Wood, où tu vois que c'est toujours ces 5 mêmes-là. Je pensais que ça venait de Breakfast Club, justement.
Eh bien, ça vient d'American Graffiti.
Eh bien, retenez American Graffiti, puisqu'en fin d'émission, nous allons parler d'une certaine série de films étrangers qui sont à la base. Le premier est une adaptation locale, je ne spoilerai pas, d'American Graffiti.
Tu vois, comme quoi, mine de rien, on revient toujours
à George Lucas.
À George Lucas et à ses œuvres matrices. Donc on va dire que voilà, dans les années 1970, avec ce film-là, ça va être les bases du teen movie, et du coup, dans les teen movies même qui nous arrivent maintenant, on a ces archétypes. Et il va évoluer ce genre, le teen movie, pour arriver dans les années 80 à cette vague de teen movie, on va dire, où ils ont pris le genre du teen movie et où ça parle pas forcément uniquement de ce qui se passe au lycée, mais ça va y coller des variations SF, donc le voyage dans le temps. Horrifique, on va voir Créature de rêve, ça parle de Frankenstein mais avec des teens, Le loup-garou avec Teen Wolf, Dracula, bah tiens, Once Bitten, évidemment c'est un teen movie mais avec le twist de Dracula, etc., etc. Donc en gros, on va prendre les questions adolescentes de la sexualité, du rapport à l'autorité, de la violence, sous la loupe du genre. Teen movie réfléchit déjà sur lui-même et transitionne déjà vers quelque chose de plus profond, intéressant, et qui va se transparaître, qui va se voir notamment avec un film dont on va parler Maintenant, on parle du Breakfast Club.
Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. And what we did was wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. What do you care? When you see us as you want to see us. In the simplest terms, the most convenient definitions. She just has a brain, an athlete, a basket case, a princess, and a criminal. Correct? That's the way we saw each other at 7 o'clock this morning. We were brainwashed.
On l'a crié, on l'a entendu, ce que vous venez d'entendre là, c'est l'intro, c'est le début de The Breakfast Club, un film de John Hughes. Breakfast Club, qui est un film encore une fois emblématique dans le genre du teen movie, puisqu'il va, on va dire, réactiver, questionner les archétypes qui ont été mis en place, comme on l'a vu par American Graffiti, les archétypes, on va dire, stéréotypaux du nerd, du geek, du mec qui fait du sport, de la bimbo, de la emo, etc., etc. Bref, ce film-là, il va prendre tous ces archétypes-là, il va les twister, et il va, comme tu l'as dit très bien, Clara, juste avant, il va en amener une réflexion un peu profonde. Mm-hmm. Et donc, The Breakfast Club, œuvre extrêmement importante dans ce genre du teen movie, notamment parce qu'elle vient d'un homme, John Hughes, qui donc a fait auparavant donc Pretty in Pink, qui va faire Ferris Bueller après, qui va faire plein d'œuvres comme ça, qui parlent, plein de films qui parlent comme ça, très très bien des adolescents, et qui, voilà, il gratine et va voir un petit peu derrière ce qu'il y a ces stéréotypes. Clara, si tu devais nous résumer, qui est John Hughes?
Mec blanc qui parle d'adolescente.
Ah, c'est bien ça.
Non, mais en fait, j'ai revu le film, et c'est vrai que ça faisait quelques années que je l'avais pas vu, il est sur Netflix. En fait, le film est brillant, le film est, comme on en parlait tout à l'heure, à la fois très très tendre et un peu âpre.
Alors on va peut-être redire le synopsis, parce que effectivement, t'en parles, c'est, en gros, c'est quoi, 5 ados?
5 ados qui sont foutus en colle un samedi,
voilà.
On sait pas pourquoi au début, ils sont convoqués à 7h du mat.
7h
du mat.
La bonne retenue du samedi.
C'est ça, la bonne retenue du samedi. Et ils doivent passer leur samedi enfermés. Ils se connaissent pas. Ils sont tous les 5 sur des archétypes très distincts de la persona du lycéen.
Donc voilà, on a le bad boy, le sports, le geek, la
bimbo, la bourge.
La bourge, ouais. Et
l'emo kid qui fait des dessins et qui parle pas. Et donc voilà, ouais. Et
ils doivent écrire surtout un travail. Pour le proviseur leur a dit d'écrire
une petite dissertation, voilà, sur qui suis-je, quel est le rôle que la société m'a donné,
voilà,
un truc comme ça. Et donc, en fait, c'est un prétexte pour que ces 5 personnages soient dans la même pièce et se parlent, quoi. Et j'en gardais un souvenir absolument fabuleux. Le film est fabuleux, le film est essentiel dans la construction du cinéphilie, vraiment. Si on doit garder 100 films dans l'histoire du cinéma, il y est, c'est évident. Après, c'est vrai que j'étais un peu embêtée, parce qu'en revoyant le film, il y a quand même plein de choses qui, à la lumière de 2019, sont un peu reloues. Donc bon, donc t'as ces 5 personnages, j'y arrive, qui sont encore fermés ensemble, qui doivent cohabiter et qui vont finir par se parler, tu vois, parce que forcément t'es dans la même pièce et par se parler de leurs états d'âme, etc. Et il y a quand même la première réflexion qui est que tout le monde est blanc et très blanc.
Tout le monde est très blanc.
Ils ont que des préoccupations de petits blancs. De banlieue un peu middle class. Donc voilà, donc on est quand même sur un truc d'Amérique blanche, voilà. Et quand ils veulent s'insulter, ils se traitent de PD. Et il y a beaucoup de slut-shaming, donc de culpabilisation d'une potentielle activité sexuelle. Donc,
notamment sur le personnage de Molly Ringwald, qui est
sur le personnage de la bourge, qui se fait vraiment traiter de fille facile d'un bout à l'autre. Alors c'est en pour et en contre, c'est-à-dire genre, elle se fait traiter alternativement de prude et de fille facile.
Peut-être que les teen movies ne donnent pas forcément des bonnes leçons à tout, et effectivement, bah, comme tu l'as dit, Breakfast Club a sans doute réussi à péter quelques archétypes et à faire avancer quelques petites narratives, on va dire, dans la tête de beaucoup de personnes, mais on a remarqué que pas tous.
C'est vraiment un film de son époque, dans son époque. Tu vois, il faut pas lui faire un procès d'intention inutile. Tu vois, on va pas aller hurler sur le fait.
Pas demander un film de 85, d'un film de 2019.
Exactement.
Il y a des trucs peut-être que d'un film de 2019, dans 30 piles, on dira mais.
Exactement. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est très important de prendre le film pour ce qu'il est. Et voilà, ce que je dis est vraiment à double tranchant, dans le sens où effectivement, il y a plein de choses qui, quand tu les regardes à la lumière d'aujourd'hui, sont un peu crispants. Et en même temps, pour un film de 85, c'est quand même déjà particulièrement fin et éveillé et réfléchi, etc. Donc voilà.
Ça, c'est très bien ce que tu dis, parce que pour revenir sur ce qui est John Hughes, donc c'est un film de John Hughes, qui est donc un réalisateur et scénariste américain qui, du coup, a, dans ses années 80, réalisé et écrit beaucoup de films sur l'adolescence. Et pour voir un peu ce que c'est la patte de John Hughes, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui, pour la première fois, on va dire pour l'une des premières fois, en plus d'y apporter une sensibilité particulière, il a écrit sur les adolescents sans les prendre pour des adolescents. Mmh. Il les a pris pour des êtres humains qui sont dans une période compliquée de leur vie, tumultueuse en termes hormonales et en termes de sociétal aussi, dans lequel où est-ce que je me trouve, à quelle place, etc., etc. C'est comme si tu fais un film sur un mec qui a la crise de la quarantaine, sauf que là c'est un gamin qui a 15 ans et qui est au début de sa vie et donc qui se pose plein de questions. Et John Hughes, il va prendre ces adolescents comme s'ils faisaient un film sur un mec qui a une crise de la quarantaine, avec tout le sérieux et tout le respect qu'il faut pour effectivement les prendre au sérieux. Et c'est peut-être pour ça que ces films, ben, mine de rien, après toutes ces années, ils restent comme des références. Tu avais quelques petites recommandations si on aimait bien The Breakfast Club.
Quelques petites recos si vous aimez bien le Breakfast Club et que vous voulez voir un peu les enfants du Breakfast Club, donc les films des années 2010. Donc j'ai noté Kaboom de Greg Araki, qui est drôle, vulgaire et parfaitement barré. Easy A avec Emma Stone, dont c'est l'un des premiers
c'est
rôles.
Bien, Easy.
Et c'est vachement bien Easy A, et ça cite le Breakfast Club à plusieurs reprises.
Et pour coup, c'est vachement fin sur le slut-shaming.
Exactement. Love, Simon, qui est un film Disney, qui est le premier teen movie dont le héros est ouvertement gay. La série Euphoria, qui vient de finir d'être diffusée sur HBO.
Avec Zendaya.
Avec Zendaya, que j'ai pas encore vu, pardon, mais où tout le monde m'a dit que c'était absolument fabuleux, et si je comprends bien, ça révère de ces sujets-là. Et enfin, Detention de Greg Araki.
Qui
est un
bien.
Film de voyage dans le temps, qui parle du Breakfast Club tout le temps, et qui est pour moi la quintessence du teen movie, si vous aimez tout ce qui a l'air d'être sous acide.
Assez parlé d'ados prépubères.
Parlons d'ados postpubères.
Parlons d'ados postpubères, aka des adultes, dans le deuxième thème de notre émission. How can we keep on watching that fucking TV? We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away and never shows us the way. La douce musique que vous venez d'entendre est issue du film Subway de Luc Besson, également sorti en 85, et dont nous allons parler dans ce second thème. Alors Subway, en gros, de Luc Besson, c'est le deuxième film de Besson, après le film Le Dernier Combat, sorti en 83. C'est un film qui aura quand même 13 nominations au César, pour 3 prix, pas mal, et qui fera quand même un petit score au box-office français, puisqu'il récoltera, il réunira 2,9 millions de spectateurs en France, qui est plutôt pas mal du tout. Alors, Clara, moi, je sais que je t'ai forcé un peu la main, j'étais un peu obligé de voir ce film parce que je t'ai dit ouais viens on fait un truc sur 85, un podcast c'est vachement bien, par contre on va parler de Subway donc il faudrait que tu vois Subway. Alors du coup tu as vu Subway il
ce
y
matin.
A 10 heures ou il y a 12 heures,
il y a 12 heures.
Quel est ton sentiment sur ce film de Luc Besson?
Eh ben déjà moi j'aime bien Luc Besson, alors mettons de côté toutes les polémiques sur la personne et ne parlons que de son cinéma, mais j'aime bien Luc Besson, je trouve que c'est quelqu'un qui propose quelque chose en France, c'est vraiment pour moi l'héritier de, alors je vais vraiment sortir les gros sabots, mais pour moi il y a une forme d'héritage tu vois de Méliès, de on tente des trucs et on sort des sentiers battus du cinéma qui est soit du cinéma français qui va souvent du drame intime à la comédie et qui revient au drame intime et qui retourne à la comédie. Besson il fait pas ça, il fait son truc.
C'est quoi son truc à Besson?
Ah c'est une vraie question.
Il fait son
ça.
Truc, c'est quoi son truc?
Je sais pas.
Moi j'ai une petite idée mais...
J'ai l'impression qu'il monte des marginaux tu vois Besson.
Ah effectivement. Bah en fait ce qui est drôle c'est que... Donc Subway en gros c'est l'histoire d'un mec,
Qui à la base devait être joué par Sting.
Alors Christophe Lambert qui devait être joué par Sting, qui vole des documents.
Ouais on sait jamais trop quoi.
On sait jamais trop quoi mais en fait
parce
c'est un
prétexte.
Parce qu'on s'en fout. Et qui va se réfugier dans le métro pour échapper aux gens qui le poursuivent parce qu'il a ces documents-là.
Qui va se réfugier à Aubert.
Voilà, dans cette belle station de métro RER. Et qui va notamment être cherché par une jeune femme, Isabelle Adjani, qui aurait dû être jouée par...
Charlotte Rampling.
Charlotte Rampling, donc on aurait pu avoir un casting de fou. Et on a un casting, alors de fou aussi.
Moi,
Christophe Lambert et Isabelle Adjani.
Tous les deux.
Mais du coup, c'est autre chose. Et du coup, ils vont se réfugier, ils vont tomber amoureux, et du coup, c'est ce mélange de dans le métro parisien, d'une course-poursuite, d'un mélange un peu policier, d'une histoire d'amour. Mais entre guillemets, l'histoire, on s'en fout, puisque Luc Besson, ce qu'il veut faire, c'est pas forcément un film où il y a une histoire.
Il veut faire des images.
Il veut faire des
images. Il veut faire des images.
Il veut faire des images cool, il veut que le rythme soit cool.
Et ça marche.
Et c'est pour ça que l'extrait que vous avez entendu, c'est quelqu'un qui fait de la musique, parce que le film de Besson, donc Subway, va être constamment une succession parfois de séquences où il y a juste de la musique et vous avoir des gens qui font des trucs. Genre, des policiers descendent l'escalier pendant 2 minutes et on va avoir juste des policiers qui descendent l'escalier pendant 2 minutes avec juste de la musique cool d'Eric Serra, donc notamment au passage.
Et donc là, la personne que vous avez entendu chanter, en fait, donc dans le film, il y a un groupe de musique qui se monte et il y a 2 scènes où ce groupe joue. Donc la première que vous venez d'entendre là et une deuxième qui est la scène de clôture du film. Et en fait, ces 2 scènes musicales sont vraiment trop chouette.
Ouais.
Enfin, la scène là que vous venez d'entendre est hyper touchante. On est sur une bande de, enfin sur cinq, ils sont cinq ou six musiciens. Ils sont tous tout chelous, tous très marginaux. Et le chanteur est en train de chanter ce truc là, un peu sur la vacuité de la société, etc. Et il pleure et c'est hyper chouette. Il y a vraiment une grappe de plans iconiques dans ce film. En plus, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'images qu'on nous sortait régulièrement sur Internet qui sortent de là.
Ouais.
Notamment des plans de Adjani. Alors, j'ai pris plein de notes à la con dont on va parler après, mais vraiment, ce film est un...
C'est une expérience rythmique, visuelle, avant d'être une histoire...
Tant de plans iconiques.
Exactement, ouais.
Je veux dire, Christophe Lambert, avec ses cheveux blonds en pétard, en costard dans le métro, et qui brandit un néon, genre... Waouh, tous les jours, s'il vous plaît.
Bah oui, parce qu'en fait, ce qui est assez amusant, c'est que bon, Besson, avant de faire des films avec des Audi et puis des prostituées et des gens qui font du kung-fu,
il y a déjà un peu tout ça. Hein. C'est déjà un peu tout ça en germe.
Mais avant, il voulait juste en fait faire des clips, mais au cinéma. Et du coup, en fait, Subway, c'est très inspiré par la pub, très inspiré par le clip. Et voilà, il veut juste que ce soit cool à voir, que ce soit une expérience cool à ressentir et à kiffer pour le spectateur, on va dire, contre un peu à l'opposé de ce que fait le cinéma français à la même époque, c'est-à-dire un cinéma un peu naturaliste et littéraire et où des mecs parlent dans des appartements du sens de la vie. Lui, ah non, ça me saoule le sens de la vie, du coup je vais juste faire des gens qui descendent l'escalier sur de la musique cool, ou alors qui se pourchassent en roller, ou alors un mec qui a un néon dans la main, il a des cheveux improbables, mais on s'en fout, c'est trop bien, bref.
Et lui, Adjani qui vraiment a plein de reprises, mais genre est incroyable. Il y a une scène où elle est coiffée en iroquois avec un manteau de fourrure de ouf et des boucles d'oreilles qui sont des chandeliers de Versailles.
Parce que pourquoi pas,
et où elle a un dîner et où elle dit à la femme de je sais pas trop quel notable « Tu me fais chier !»«
Exactement.
Tu me fais chier, je m'emmerde !»
Je crois que elle le dit au cinéma français un petit peu, tu vois.
Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et puis vraiment, genre, il y a un moment où elle arrive pour aucune raison dans le métro en robe haute couture avec pareil deux chandeliers de Versailles sur les oreilles. Pour aucune raison! Et genre, elle se pose, et je crois que Christophe Lambert lui dit, pourquoi vous êtes habillée comme ça? Et elle la regarde avec, enfin, elle le regarde avec plein de mépris, elle dit, ben pourquoi pas? Tu vois, et.
C'est la meilleure réponse.
Oh là là! Et elle est sapée comme jamais tout le temps, et c'est une espèce d'héroïne, c'est même pas du steampunk, c'est du métropunk. C'est tellement de plans incroyables!
Ben, Luc Besson, à cette époque-là, en 85, pourquoi il fait un genre de film comme ça? Il est pas le seul.
Il a 25 ans. Hein.
Il a 25 piges, il fait un film comme ça. Et il est pas le seul parce que, à la même époque, on va voir Jean-Jacques Benex et Léo Scarrax, qui vont être deux autres réalisateurs, qui vont faire un peu les mêmes genres de films, qui vont faire des films sur, ces films organiques, sur le ressenti, le rythme, le visuel, des images, des sons forts, sur l'expérience véritablement. Et ces trois réalisateurs-là, ils vont être, on va dire, rétroactivement mis dans un même groupe, qui va être un même genre cinématographique, ou un même mouvement, qui va être le cinéma du look, en gros, qui va être un mouvement qui est très inspiré, donc on l'a dit, du clip et de la publicité. Et qui, en gros, ce cinéma du loup qui va se focaliser sur la forme plutôt que sur le fond et se fout de l'histoire. Il va juste faire effectivement des images cool et des rythmes cool. Et c'est pour ça que on l'a vu avec l'extrait et on l'a dit, ce Subway, on va dire, est plus une succession peut-être de clips musicaux et d'une expérience rythmique et sensorielle assez forte, plus qu'une histoire
importante. Oui, mais réussie.
Mais réussie.
Mais réussie.
Exactement.
Contrairement à genre Sucker Punch, tu vois, un truc comme ça. Non, mais qui est aussi une succession de clips qui est tout pourri.
Exactement. Tu vois.
Alors que non, vraiment, en fait, je m'attendais à rien. Et alors que pour le film dont on va parler après, vraiment, je m'attendais à rien. Un cauchemar, en fait, c'était chouette. Mais vraiment, je m'attendais à rien et j'ai passé un honnête très bon moment, notamment parce que Besson, c'est un vrai artisan. C'est-à-dire que vraiment, il sait faire des images, il sait faire des plans, il sait faire des scènes, et c'est largement assez, en fait.
Moi, c'est la question que je voulais te poser. Là, on voit que Subway, Luc Besson, 25 ans, il fait un film pareil, qui va effectivement avoir des nominations au César, un public, et puis qui va être un film extrêmement important. Mais il est où, ce Luc Besson? Il est passé où, ce Luc Besson? Parce que moi, j'adore Le Grand Bleu, j'adore ce film-là, j'adore Le Dernier Combat, j'adore... En fait, on oublie qu'avant qu'un Luc Besson avec des Audi et des gens qui font de la bagarre sur des toits de Audi, il y avait un mec qui faisait des films qui, on va dire, avait quelque chose à... Peut-être pas à dire, mais en tout cas à montrer, à clamer, à essayer et à montrer.
Luc Besson, c'est un mec qui fait du divertissement.
Ouais.
Et en fait, c'est important, le divertissement. Enfin, je veux dire, il y a un moment où le cinéma est un art du loisir.
Est une industrie. Exactement.
Est une industrie, est un art du loisir. Et en fait, genre, c'est chouette aussi d'être diverti et de passer un bon moment.
Voilà.
Et je trouve que c'est très important, en fait, de passer un bon moment.
Exactement.
Donc voilà. Non, et surtout, le cinéma français, le fonctionnement et le financement du cinéma français est fait de telle façon que, en fait, quand Luc Besson rapporte une tonne de thunes en faisant Lucie...
Par exemple.
C'est... Non, mais je vais prendre un exemple qui, tu vois, cette année-là a été genre le quatrième film qui a fait le plus d'argent au total de tous les films qui sont sortis cette année partout dans le monde. En fait, quand Luc Besson rapporte une tonne de thunes avec un film que les cinéphiles et les journalistes cinéma vont un peu bouder, en attendant, c'est de l'argent qui est... Enfin, il y a une partie de cet argent qui est pris par le CNC pour être réinvesti et qui permet de financer tout le cinéma que vous aimez, les petits films français. Et donc voilà, donc on est quand même dans une grande boucle de l'industrie française. Donc en fait, Luc Besson, en faisant Lucie, c'est un mec qui permet à d'autres beaucoup plus petits films d'exister. Et Danny Boone, pareil.
Donc les grosses choses. Mais hein. Oui, le fonctionnement effectivement du cinéma français permet que les gros succès du cinéma français et en France et à l'international, ça revient un petit peu dans la boucle, ça rentre dans le cinéma français
pour la fameuse exception culturelle.
Voilà, que ça produise par exemple des films comme Grave. Comme tu le disais, de Julien Ducournau. Mm-hmm. C'est très beau ce que tu dis, Clara, sur Luc Besson. Avant d'être un cinéaste qui aidait l'institution française en faisant du cinéma, ça a été un cinéaste qui a été un petit peu anti-institution et qui a fait des films un petit peu différents et que moi, j'ai envie de vous inviter à découvrir. Donc, comme Subway, moi, je suis un grand fan du Grand Bleu parce que je trouve que c'est un petit peu con, c'est un petit peu débile, mais qu'est-ce que c'est foutument beau, qu'est-ce que c'est... C'est dingue, bref.
J'ai l'impression qu'on n'a jamais vu un film comme Le Grand Bleu, qu'on n'en avait jamais vu avant et qu'on n'en a plus jamais vu après.
Et non, Le Grand Bleu, c'est fou. Il n'y a que Luc Besson qui fait des trucs comme ça, et à l'époque, il faisait des trucs assez fous. Et c'est important de s'en souvenir.
Ouais, bordel. Et puis Le Cinquième Élément est un film français.
Exactement, non, mais avec Bruce Willis.
J'apprécie pas tout ce que le mec fait, je suis pas là pour essayer de faire un plaidoyer vibrant sur Luc Besson.
Il aide la personne après.
Tu vois, c'est passé à la question, mais bordel.
C'est bien d'avoir un recul sur ce qu'il représente plein de temps en termes d'industrie.
Et tu vois, c'est facile de le détester.
D'où
tu vois,
il vient aussi. Mec, c'est un petit génie. Luc Besson est un petit génie.
Ouais, ouais. Et puis il a lancé tellement de gens qu'on adore aujourd'hui, tu vois.
Voilà. Bah là, ne serait-ce que dans ce film-là, donc on a Adjani, on a Christophe Lambert, on a Jean Reno, on a Jean-Hugues Anglade, on a
Boringer,
comment il s'appelle?
Galabru,
mais génial.
Mais
bref,
Luc Besson,
je suis un peu perdu.
Non, je t'en prie, mais Luc Besson, on sait pas s'il est féministe, mais en tout cas, qui a donné des rôles à des actrices absolument incroyables, qui a fait des films où les rôles principaux étaient des meufs et
Nikita.
Où tu vois, où Jovovich,
Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc.
Le mec, il a fait un film sur Jeanne d'Arc.
Yes.
Bref, Luc Besson, et puis c'est un petit génie, et puis c'est un mec qui mérite toute votre attention, donc n'hésitez pas à revenir. Notamment sur les premiers films de sa carrière, ce Subway, ce Grand Bleu.
Et Le Dernier Combat.
Et puis c'est un mec aussi qui, au passage, a fait un clip qui s'appelle Pulmarine de Isabelle Adjani. Donc si vous tapez Pulmarine sur YouTube, vous allez avoir une magnifique chanson de Isabelle Adjani réalisée par Luc Besson. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Non, c'est parfait.
C'est parfait, bah écoute, on va passer sans plus attendre au troisième thème de notre émission. This is the truth of it. Fighting leads to killing. And killing gets to warring. And that was damn near the death of us all. Look at us now. Busted up and everyone talking about hard rain. But we've learned by the dust of them all, Bartertown's learned. Now when men get to fighting, it happens here. And it finishes here. Two men enter, one man leaves. Pour ce troisième thème de cette émission consacrée au cinéma de 1985, on va s'attarder sur un film en particulier, un film...
Avec 600 cochons dedans.
Avec 600 cochons dedans, et un mec avec des cheveux improbables. Un film que tu as conseillé toi-même, Clara. Moi, je suis allé voir... quand je fais un podcast, je me dis, tiens, l'invité, j'ai envie de lui donner la parole, j'ai envie de dire, de quoi t'as envie de parler, Clara? Et Clara, elle me dit, attends, il y a Mad Max 3... Au-delà du Dôme de Tonnerre.
T'avais déjà choisi
Au-delà du
Dôme
de Tonnerre. Et Breakfast Club, c'est bien, mais Mad Max 3 avec les 600 cochons, c'est encore mieux. Donc, je veux pas qu'on parle de Mad Max 3 au-delà du Dôme de Tonnerre. Et on va parler de Mad Max 3.
C'est une réécriture de l'histoire qui ne me satisfait pas, mais en avant.
Non, mais moi, avant de parler de Mad Max 3, parce que c'est effectivement le film dont on va parler. Pourquoi Mad Max 3, Clara? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on parle?
Parce que je crois que ça m'a fait rire de le voir sur la liste. En fait, tu m'as dit, ouais, choisis un film. Et moi, je m'étais dit, je vais trouver un truc issu de la série Girl Boss Guerilla, qui est une série de films japonais avec des meufs hyper stylées, rockabilly, qui pètent des gueules à des mecs. Et en fait, c'était pas du tout la bonne époque, donc du coup, j'étais complètement à court de films. Et tu m'as du coup gentiment envoyé une liste. Et Mad Max 3, ça m'a fait rire. Voilà, donc je me suis dit qu'on allait parler du Mad Max le moins populaire des quatre.
Et oui. Et tu m'as dit, Mad Max... En gros, le texte, c'est... Ah, Mad Max 3, quel panache. Du coup,
ça ressemble à quelque chose que je pourrais écrire.
Bon, en gros, Mad Max 3, donc ça raconte, évidemment, Max, qui va se retrouver le héros donc, de Mad Max 1.
Dans une nouvelle situation de merde.
Improbable, oui, parce qu'effectivement, donc, on le rappelle, mais il y avait donc Mad Max 1 sorti en 79, il me semble, et après, on avait The Road Warrior sorti en 82, par contre. Et donc là, c'est la suite Mad Max 3, où on retrouve encore une fois Max dans une situation improbable, où il se retrouve dépouillé de ses biens.
Et de ses chameaux.
Et il se retrouve dans la ville du troc. Tout le monde dit effectivement que le 3, c'est le pire de la saga, et en fait, moi, j'ai été agréablement surpris. En tout cas, c'est un film qui est différent et important, puisque c'est le premier film de la saga de Mad Max, donc quand il sort en 85, où George Miller fait le film... sans son ami et acolyte Byron Kennedy, qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Pour vous donner une idée, Byron Kennedy, vous avez en général, avant les films de George Miller, vous avez une production Miller Kennedy Productions. Et bien, c'est Byron Kennedy, c'est le Kennedy du Miller Kennedy Productions
et
au début
film
des films.
Dédié.
Et le film, effectivement, lui est dédié. Lui qui est mort, du coup, en repérage pour le film. C'est aussi le seul film de la saga où Miller, comme il était en deuil... partage la réalisation avec un certain George Ogilvy, puisque Miller effectivement était tout simplement en dépression parce qu'il avait perdu son associé et son meilleur ami. Mm-hmm. Donc en gros, George Miller faisait les scènes d'action et Ogilvy s'occupait des autres scènes, parce que George Miller a toujours été un gros fan des scènes d'action. Et c'est un film aussi assez différent des deux premiers, parce que c'est le premier film de la saga Mad Max où il y a des investisseurs on va dire américains d'Hollywood qui vont du coup faire gonfler le budget mais qui vont imposer notamment Tina Turner pour un rôle de Aunt Titi qui va être celle qui gère la ville du troc. Ça fait un film effectivement plus édulcoré, notamment sur un twist de mid-film où le film en commençant comme tous les autres films Mad Max, on va dire un truc un peu cyberpunk, pas cyberpunk mais
post-apo
avec des voitures et des gens qui puent et des gens mal formés, au milieu du film twist et devient en gros Hook avant Hook véritablement, puisqu'on va se retrouver avec Max qui rencontre les enfants perdus.
Voilà, non mais littéralement je l'ai écrit en gros, en tout cas en film du dimanche matin avec des brioches, c'était vraiment pas mal,
c'est bien hein.
Mais c'est un gros cartoon en fait ce film.
Vas-y.
C'est-à-dire que le début... Alors, Mad Max 2 est quand même un film assez dur, assez âpre. Il a un petit côté La Colline à des yeux, tu vois,
Mad
Max 2.
C'est violent, c'est violent.
Et puis ça déconne pas, tu vois. C'est pas violent rigolo, quoi. Pas comme pourrait l'être un Evil Dead, tu vois. C'est pas un film de Sam Raimi, c'est vraiment genre violent un peu âpre et qui tape dans les gencives. Alors que toute la violence de Mad Max 3 est toujours très fun. Ça a un côté un peu plus Sam Raimi, effectivement.
PG-13, quoi.
Je sais pas s'il est PG, mais en tout cas, le film est assez
PG,
pop, en fait. Le film est très pop. Et donc, voilà. Et en fait, du coup, il y a ce truc où quand tu regardes le film, je sais pas à quel point est-ce que le plot de mid-film était dans la promo, mais tu vois, j'ai l'impression que tout ce dont j'avais entendu parler, c'était cette espèce de ville du troc absolument horrible.
Thunderdome.
Ouais, c'est ça, le Thunderdome.
Qui en fait...
qui en fait arrive au bout d'une demi-heure.
Oui, et puis on s'en fout. Et puis,
on n'en a rien à foutre.
C'est
vraiment,
une scène, et puis en fait, après, finalement, il saute, et puis on s'en fout.
La scène de combat la plus random de la Terre, tu sais, c'est une espèce de scène de gladiateur qui n'est pas très intéressante.
Oui.
Alors que le système de la ville et le système de cette nouvelle société est plutôt pas mal.
Mais c'est marrant, parce que regarde, là, tu me dis, c'est un cartoon, il y a des plans magnifiques.
C'est très anodin,
enfants,
c'est beaucoup plus nanardesque que les autres.
Mais ce qui est drôle, c'est que on a une tonalité encore différente et pourtant c'est un film Mad Max. Mais effectivement, si la production a été particulière.
Il y a un côté Amblin un peu ou Amblin, je sais pas comment ça se prononce.
Exactement. Mais ce qui est drôle, c'est que moi pour l'émission, du coup, je me suis dit je vais mater les 4 Mad Max d'affilée. Alors je les avais déjà vus et du coup, je me fais une journée Mad Max où je mate tous les Mad Max. Et c'est drôle parce que le premier Mad Max, c'est un film qui a été fait avec 300 000 $, donc avec 4 potes, on va dire, sur des routes australiennes. Et donc, c'est un film qui est très épuré, très simple, etc., etc. Le deuxième, ils ont de la thune, ils font The Road Warrior, qui est le film culte post-apo, avec toute l'imagerie de Mad Max que tout le monde a. Il vient de ce film-là, de Mad Max 2, mais qui est encore différent, qui pousse encore le curseur plus loin, où tu as une espèce de colonie de gens qui rêvent d'un ailleurs, avec... ce groupe de bikers avec un espèce de humongous fou, etc., etc. Et le Mad Max 3 arrive encore avec une autre tonalité différente, avec ce côté, comme tu disais, Amblin un peu pour enfants, mais on va dire c'est une saga, et Fury Road est encore différent. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une saga qui, les 4 films sont tous uniques en ton. ils ont tous des tonalités différentes. C'est parce vrai. Que ben, ils viennent d'époques et d'économies tous différentes.
C'est presque plus une anthologie qu'une saga.
Exactement. C'est pas des... Alors, d'ailleurs, en plus, c'est pas des films qui se suivent véritablement. T'as quelques petits rappels parfois au saxophone, à Max et sa fille, etc. Et à sa femme, bien sûr. Mais en fait, tu sais jamais trop à combien d'années c'est par les deux. Tu sais jamais trop... Donc, justement,
je crois que George Miller a fini par répondre,
par dire la chronologie,
pour faire une espèce de chronologie. Mais
quand tu regardes les films comme ça, il n'y a aucune, tu vois, c'est pas, c'est
non,
pas,
deux,
c'est
même trois pas et quatre, raisons. Tu sais pas dans quel ordre il se passe.
Et je trouve ça assez beau parce que quand tu regardes les autres sagas en général, avoir comme ça quatre films assez différents et qui fassent quand même un tout qui est constant, mais en fait, t'as que Mission Impossible qui arrive à le faire parce que où t'as à chaque fois des épisodes
James
qui sont
Bond
tous relativement
aussi.
Différents. Et James Bond à un autre niveau où c'est sur 25 films véritablement. Mais tu vois, c'est mais je trouve que pour le coup, Mad Max 3, moi qui m'attendais à quelque chose d'assez médiocre, eh ben je le trouve étonnant. Alors il a des défauts,
c'est très
bien
random,
sûr,
hein, quand
c'est
même.
Très random, etc. Mais moi je trouve qu'il y a des beaux moments. Si Mad Max 3 n'est pas un film qui, on va dire, est l'un des plus mémorables de la saga, loin s'en faut, c'est quand même un film qui a le luxe de donner une tonalité différente et pour le coup d'ouvrir l'univers. Parce que mettre des gosses, mettre un avion, mettre cette espèce de, d'autres sociétés, qui, ça rajoute une couche à un univers qui quand même était assez fourni, assez chargé.
Mais tu sais quoi, justement, je pense que la fin de Mad Max 3, donc où ils sont à nouveau dans une ville, etc.,
ouais,
rajoute des billes dans ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que Mad Max Fury Road se situe entre le 2 et le 3.
Donc ça,
si
ça...
c'était Mad Max 4...
Oui, ça serait,
tu vois, ça marche pas,
arrière,
en fait.
Ce serait effectivement dans cette théorie que l'ordre, ce serait 1, 2, Fury Road et Mad Max
et 3.
Donc si vous voulez voir effectivement la vraie fin de la saga Mad Max, regardez Mad Max 3, au-delà du Dôme de Tonnerre.
Qui est agréable, hein. C'est pas un grand film, mais c'est assez agréable.
Exactement, je crois qu'on pourrait le résumer comme ça. C'est pas un grand film, mais c'est assez agréable. Et puis il y a des... Puis George Miller arrive, ouais, effectivement, à y foutre quelque chose... Des petits moments de grâce, je trouve, comme ça.
Genre avec la scène de l'avion, les... c'est un immense
scène de l'avion, grâce. Et puis, puis tu vois, foutre Mad Max en termes de... dans le rôle d'un espèce de père. Ah oh non, je te porte pas. Et puis, tu vois, la scène d'après, il porte le gamin sur ses épaules. C'est con, tu vois, mais tu te dis... T'as ce côté, bon, tu vois, encore un aspect de Mad Max.
Attends, dans le premier, Max, il perd pas son fils.
Il perd son fils et sa femme, écrasée par les...
sa femme, je m'en souviens très très bien. Mais du coup, je suppose qu'il y a aussi un écho... Tu vois, un écho sur le fait que là, il se retrouve à nouveau dans une forme de paternité qu'il a, du coup, qui lui a été enlevée d'une façon hyper violente. Tu vois, donc je suppose aussi qu'il y a un retour à ce truc-là. Et alors vraiment, de façon très très annexe, ça m'a fait penser un peu à Captain Fantastic sur le côté des enfants perdus.
Bah, oui. Un thème dédié à Mad Max 3, juste pour vous dire que c'est pas mal quand même.
C'est pas si mal.
C'est pas si mal. C'est loin d'être un film indigne de la saga. Et je trouve que moi, personnellement, je trouve que c'est un complément qui est... logique et qui est sympathique à la saga et mieux vous voir les quatre en entier pour
il faut réhabiliter
Mad Max 3. Réhabilitons Mad Max 3. Pour terminer peut-être sur ce thème avant d'aller sur le tour du monde et la conclusion de notre émission, juste pour rappeler effectivement que Mad Max c'est la saga d'un seul homme, ce qui est quand même mine de rien une rareté dans le cinéma puisqu'on a Spielberg qui fait Indiana Jones, Lucas qui a fait Star Wars et Miller qui fait Mad Max et pas tellement d'autres personnes, donc c'est intéressant d'avoir juste de voir l'évolution d'une saga et des films en fonction de la vie d'un homme. Et
d'un
dans ce
auteur,
cas-là, effectivement,
c'est des vraies sagas d'auteurs.
Voilà, exactement. De voir que George Miller, ben là, il a perdu son acolyte et du coup, ben forcément, Mad Max 3, il est différent des autres. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de le revoir. On passe au tour du monde.
Je suis prête.
On passe au tour du monde. Et on va terminer doucement avec, comme à l'habitude, le tour du monde, hein, qui va être, on va dire, l'occasion de parler de films dont on n'a pas pu parler pendant cette émission, de films sortis également en 1985. Alors, juste avant qu'on aborde les quelques films qu'on a choisis pour vous, 85, au-delà d'être Retour à la Future, Breakfast Club, Créature de rêve, Subway, dont on a parlé là,
Mad Max 3,
dont on vient de parler, il y avait aussi Brazil,
ah oui, tiens,
de Terry Gilliam, il y avait aussi Ran de Kurosawa, il y avait L'Année du Dragon, il y avait Witness de Peter Weir, je le répète à chaque podcast, Peter Weir c'est l'un des cinéastes les plus intéressants encore vivant. Il y avait Out of Africa,
qui lui est pas très intéressant.
Il y avait Pale Rider de Eastwood, il y avait After Hours de Scorsese, il y avait La Couleur Pourpre de Steven Spielberg, Shoah de Claude Lanzmann qui est un film de 9 heures mais qui est vachement bien.
On fera un épisode sur
Shoah. La Rose Pourpre du Caire de Woody Allen, Trois Hommes et un Couffin de Colin Serrault, un James Bond dangereusement vôtre, Phenomena de Dario Argento, et c'est, je les ai notés parce que c'est drôle, la même année sort Commando, Rambo 2, Mad Max 3, donc Rocky 4 et Vendredi 13, chapitre 5, Une nouvelle terreur. Donc c'était assez rigolo d'avoir cette suite, 1, 2, 3, 4, 5, bref. Et il y avait le Disney, juste comme ça, le Disney Taram et le Chaudron Magique, et la Palme d'Or, Papa est en voyage d'affaires de Kusturica. Bref, énormément de films, là il y en a encore plein, j'ai une liste incommensurable. Bref, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir dans ce tour du monde ?
Alors, plus qu'un film, j'ai une saga à vous suggérer, et là, c'est un peu opportuniste. C'est pour revenir donc à notre discussion sur les teen movies. On parle beaucoup de teen movies américains, un petit peu de teen movies français, mais on n'a pas du tout parlé de teen movies qui viennent d'ailleurs. Et en fait, il y a une série de teen movies, enfin une saga, qui est extrêmement culte en Israël, qui s'appelle Lemon Popsicle, et où il s'avère que le sixième, dont personne n'a rien à foutre, est sorti en 85, mais je peux
thématique,
quand même en parler.
Voilà, 1980, Lemon Popsicle, donc.
Lemon Popsicle, il y a un coffret que vous pouvez trouver très facilement, où ils y sont tous en DVD, sachant donc que le premier Lemon Popsicle, comme on en a parlé plus tôt dans l'émission, est une adaptation d'American Graffiti.
Et donc le dernier est sorti en 85.
Non, le dernier est sorti genre en 2002, enfin tu vois, il y a une blague comme ça. En fait, il y en a 8 ou 9, ça s'arrête en 88, j'ai regardé ça ce matin en préparant l'émission, et puis il y en a un nouveau qui sort genre en 2001 ou en 2002, bref. Donc, ce qui est très intéressant dans Lemon Popsicle, c'est que sur la saga, au début, c'est donc du teen movie un peu grave le débile, et en fait, ça se met à parler de absolument tout, ça se met à parler de la dépression, de la maladie, de la mort, du syndrome de choc post-traumatique après la guerre.
Ça a l'air vachement bien.
Non, mais c'est ouf, et en fait, vraiment, la saga navigue dans plein d'eau.
C'est quoi, 6 films ?
6 ou 7, enfin, j'en sais rien.
Et tu m'as dit que c'était extrêmement culte en Israël.
C'est hyper culte en
Israël.
Tout
le monde l'a vu.
Tout le monde connaît ce truc-là, tu vois, c'est comme nous, la grande vadrouille, quoi. Tout le monde connaît Lemon Popsicle.
Et il y a certaines personnes qui ont leur oncle ou tante qui ont joué dans Lemon Popsicle.
Ouais, c'est un truc un peu rigolo. Les Israéliens, ils t'expliquent tous qu'il y a leur oncle ou leur tante ou leur arrière-grand-père ou leur cousin qui avait un petit rôle dans Lemon Popsicle. C'est comme les gens qui habitent vers Saint-Tropez, quand ils te parlent de Sous le Soleil, tu vois, ils ont toujours
d'accord,
un cousin qui a fait de la figure. Donc voilà, ouais, c'est très sympa.
Et donc, en fait, c'est une série de films sur l'adolescent.
Oui, c'est des ados. D'accord. C'est des ados, c'est tout à fait des ados. Et ça me permet aussi rapidement de vous parler du fait que ces films ont été produits par la Canon. Qu'est-ce que c'est la Canon ? La Canon, c'est la société de production de Menachem Golan et je sais plus comment il s'appelle, Globus.
Ouais.
Dit les Go-Go Boys. Ça a donné lieu à deux documentaires il y a quelques années à Cannes qui s'appellent The Go-Go Boys et Electric Boogaloo, qu'on vous recommande. Il y en a une version qui est autorisée et l'autre qui l'est pas, donc il y a une version polie et une version mal élevée. Et en fait, ces mecs-là sont deux Israéliens qui ont décidé qu'ils allaient conquérir le monde avec du cinéma d'exploitation et à qui on doit notamment Massacre à la tronçonneuse 2, mais à qui on doit aussi tous les films de Ninja.
La Canon, c'est culte.
Voilà, la Canon, c'est hyper culte. Et j'ai noté quelques films qu'ils ont fait que
c'est
vous connaissez.
C'est pas eux
connaissez.
Qui ont révélé Jean-Claude Van Damme.
C'est eux qui ont révélé, et c'est eux qui ont fait commencer Jean-Claude Van Damme, c'est eux qui ont révélé Blood Chuck
Sport.
Norris. Bloodsport, exactement. Et donc, dans les films que j'ai notés, il y a Un justicier dans la ville à partir du 2. Non, pas Chuck Norris.
Charles Bronson.
Donc, c'est eux qui ont révélé Chuck Norris, JCVD, Charles Bronson. C'est eux qui ont produit, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Bloodsport, Massacre à la tronçonneuse 2, Delta Force, et tous les American Ninja, American Warrior.
Michael Dudikoff.
C'est ça. Et deux films sur la Lambada aussi.
Très important.
Très important.
Lambada 1 et Lambada 2.
Non, il y en a qui s'appelle Forbidden Dance, et l'autre qui s'appelle Lambada.
C'est magnifique.
Mais non, c'est de la vraie histoire du cinéma, ces trucs-là. Et donc voilà, et donc dans leur grande saga, il y a ce truc qui s'appelle Lemon Popsicle, qui est très facile à trouver en DVD. Il y a un coffret complet qui doit coûter genre 20 balles sur Amazon.
C'est donné, et cette recommandation vous est donnée par Clara.
Yes.
Lemon Popsicle. Donc déjà, moi je suis extatique parce que là, effectivement, tout comme tu en as parlé, ce complément d'information sur la Canon, forcément, je m'achète directement sur Amazon.
Please.
En one click, ce coffret.
En livraison express.
En livraison express, demain je l'ai en drone qui arrive par la fenêtre.
C'est ça, merci Jeff.
Moi je continuerai ce tour du monde. De mon côté, Marocco va être Polystory de Jackie Chan. Oui, effectivement, le premier épisode de la série de films policiers de Jackie Chan, donc on ne présente pas. Pourquoi c'est important ? Parce que déjà Polystory, le 1 et le 2 notamment. Sont deux films assez phénoménaux par des séquences d'action assez folles. On voit donc Jackie Chan et toute son équipe de cascadeurs faire des trucs assez fous. On est dans une course-poursuite de bagnole au milieu d'un village qui est en pente. Voilà. Il y a Jackie Chan qui est suspendu à un bus en mouvement avec un parapluie. Bref, Jackie Chan, c'est le mélange de Charlie Chaplin, de Buster Keaton et de Bruce Lee, et de, tu mets tout ça ensemble et tu te marres et c'est drôle et c'est de la baston et c'est trop bien.
Il semblerait que ce soit le mec le plus sympa du monde en plus, Jackie Chan.
Et ça ne m'étonnerait pas.
Ça m'étonnerait
pas. Parce qu'en tout cas, il est très sympathique. Mais en tout cas, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement bien foutu. Et ce qui est drôle, c'est que Police Story, donc il sort en 85, et ce mélange d'action physique et de comédie, parce qu'il y a vraiment des scènes un peu de vaudeville où Jackie Chan il est en peignoir et puis il croit que sa copine n'est pas là et puis il se prend une tarte de. Une tarte dans la gueule parce qu'en fait elle était là et ça fait vraiment des scènes genre hey, je suis trop con, je suis un petit copain un petit peu nul, voilà, bref, t'as vraiment des trucs et ce mélange d'actionneur et de comédie va donner des idées à Hollywood puisque ça va lancer on va dire un autre type d'actionneur et va lancer des films comme Tango et Cash par exemple ou comme les Bad Boys.
Mais oui,
exactement, donc c'est des trucs de on bute des mecs mais on fait des vannes et ben en fait faut dire merci à Jackie Chan.
Merci Jackie Chan.
Donc c'est un petit peu ça. Donc voilà, juste l'importance de Police Story, juste l'importance de Jackie Chan du coup, qui est espèce de voilà de mélange d'arts martiaux, de comédie, de cette physicalité à la Buster Keaton, de faire des trucs de fou parce qu'il fait ses cascades lui-même et notamment il y a une cascade finale dans un centre commercial qui ben lui a démonté le pelvis, lui a brûlé les deux mains au troisième degré parce qu'effectivement il descend une rampe avec plein de lumière qui éclate en même temps qu'il descend de la rampe. Et c'est drôle parce qu'ils l'ont tourné une seule fois, parce qu'effectivement, après, c'était pété, ils ne pouvaient plus le tourner. Et ils devaient rendre le centre commercial dans l'état où ils l'ont trouvé, parce qu'il ouvrait à 7 heures. Donc ils avaient juste la nuit pour tourner la séquence, donc c'est fou. Donc juste pour vous rendre compte, à une époque où aujourd'hui, on a beaucoup de CGI et d'effets spéciaux, etc., etc. Là, vous avez un film, donc Police Story, qui est déjà vachement bien, parce que l'intrigue est intéressante, c'est drôle. Et c'est fun, et en plus où les cascades que vous voyez sont faites par des vrais gens, et notamment par Jackie Chan qui est une personne formidable. Bref, on arrive à la fin de cet épisode 5 d'Année Lumière, où on a parlé donc de l'année 1985, on a parlé de plein de choses, peut-être trop de choses dans cette année 1985, on a parlé du teen movie avec Retour à la Futur, Breakfast Club, et entre autres, on a parlé de Luc Besson et de Subway, on a parlé de Mad Max 3... On a fait un tour du monde avec Lemon Popsicle, Requiem pour un massacre, Jackie Chan et Runaway Train. Et on vous a cité plein d'autres films en passant. Comme il est de coutume, à chaque fin d'épisode, l'invité du jour va tirer au sort l'année dont on va parler dans le prochain épisode d'Année Lumière. Je te mets devant toi un générateur de nombres aléatoires et je vais te laisser appuyer sur le bouton qui va nous donner l'année dont on va parler dans le prochain épisode.
Alors, et donc du coup, le gagnant est 1925.
1925, bah écoute, les années 20, on n'avait jamais fait ça avant. 1925, comme ça de tête, j'ai pas de films qui me viennent, mais c'est forcément intéressant, parce que moi, personnellement, j'adore les années 20 et les années 30, parce que c'est, bref, une période assez
l'entre-deux,
cool.
L'entre-deux, je pense que c'est dense.
Ouais, assez cool, où il y a le cinéma, il essaye plein de trucs, et il arrive plein de trucs, et en plus, t'as une génération de cinéastes allemands trop cool et français. Bref, c'est cool, 1925 pour l'épisode 6 d'Année Lumière, merci Clara.
De rien.
Il me reste plus qu'à te remercier encore d'être venu, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir si bien parlé de cette année 85. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et bien écoutez, il me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode d'Année Lumière.
Au revoir.
Au revoir.